Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois Mupien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, la seconde partie du reportage consacré à l'ouvrage de Florence Sébron, qui a pour nom Marianne à la rue. Cet ouvrage est le témoignage de ce qui s'est passé à l'automne 2019 dans la ville de Creil, et plus particulièrement à l'école Gérard de Nerval. Il raconte le combat des enseignants, mais aussi des personnels, des familles, mobilisés pour venir en aide aux enfants et aux parents sans logement. L'ouvrage s'appelle « Marianne à la rue ». Qui est cette Marianne, Florence ? C'est un personnage fictif, c'est ça ?
Alors, son prénom est fictif et fortement symbolique, ce personnage a existé et c'est lui d'ailleurs qui a déclenché mon écriture. Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur le sujet de l'immigration. J'ai plein de moments dans ma vie où j'ai failli écrire à ce sujet de façon littéraire ou romanesque. Et puis, il n'y avait jamais eu le déclencheur suffisant. Et la rencontre avec cet enfant a immédiatement, je pense, dans les 5 minutes qui ont suivi, déclenché en moi quelque chose de très, très fort.
Oui.
Et donc, c'est un personnage, cet enfant. C'est le personnage de ce livre. Mais c'est un personnage dans la vie. C'est une petite fille qui m'a époustouflée, ébahie, ouvert les yeux, illuminée. Je ne vais pas trop en dire, parce que c'est une invitation à lire le livre.
Bien sûr.
Voilà.
C'est un roman, Marianne à la rue, mais à l'intérieur de celui-ci, vous posez des questions très intéressantes qui méritent réflexion et analyse, comme qui crée la clandestinité, qui empêche les individus de déployer toute leur vitalité là où ils le souhaitent, qui fixe les règles, pourquoi ces règles du jeu, à qui profite le crime ?
Je pense qu'effectivement, c'est un des noyaux de ce livre, ces questions que je me pose depuis très très longtemps, parce que on utilise le mot clandestin souvent pour dénoncer ceux qui sont mis en clandestinité. Or, ce que nous avons vu pendant ces 2 mois de solidarité, on va dire, c'est que la clandestinité, c'est quelque chose qui est fabriqué par notre société. Et puis après, chacun d'entre nous peut constater autour de lui que les êtres humains sont géniaux, ont une capacité à produire des choses. En même temps, ils vivent des situations, pour certains, dramatiques. Et très nombreux vivent des situations dramatiques autour de cette planète. Hein. Ils sont plutôt plus nombreux à vivre dans la misère, la pauvreté, la guerre, etc., et donc, ils sont anéantis dans leur capacité à s'approprier le monde et à en faire quelque chose. Moi, je ne comprends pas, et je n'ai toujours pas envie de comprendre, pourquoi chaque être humain ne pourrait pas déployer toute sa vitalité là où c'est le mieux pour lui de la déployer. Alors, je le comprends parce qu'il y a des mécanismes structurels à nos sociétés qui repose essentiellement sur l'exploitation des uns par les autres. Et donc, à partir de là, effectivement, une grande majorité sommes contraints d'agir dans des cadres beaucoup plus limités que ce qui nous permettrait de nous épanouir. Donc, ces familles-là, quand elles décident d'aller vivre ailleurs, pour moi, c'est un acte de vitalité immense. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai toujours eu envie d'écrire sur ce sujet. C'est que j'ai mené une thèse sur les enseignants liés aux immigrations, donc des enseignants qui ont immigré eux-mêmes ou dont les parents ont immigré en France. Alors, on dit immigré quand on arrive dans un pays, mais au départ, on a émigré. Donc, la première démarche, c'est un élan de vie. Et ça, on l'oublie souvent. On dit de quelqu'un qui prend une initiative qu'il est courageux. Quelqu'un qui va créer une entreprise, il est courageux. Quelqu'un qui va se mettre à créer une forme artistique, il est courageux. Et on oublie de dire que celui qui a la force de changer de pays est courageux. Voilà. Alors, il est aussi mu par des contraintes qui sont extérieures à lui, mais n'empêche que c'est un acte de vitalité immense. Et souvent, les familles qui arrivent quelque part, sont chargés de cette vitalité. Et moi qui vis à Creil, et je suis presque née à Creil, hein, donc je suis arrivée, j'avais 2 ans. Et en gros, je n'ai quitté Creil que pour faire mes études et j'ai souhaité y revenir. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité y revenir, c'est cette grande vitalité de la population qui fait ma ville, de ma population. Je me sens pleinement crayoise à ce titre. Des familles qui arrivent sont souvent des familles qui ont un souhait de vie et de changement très très fort. Donc voilà, quand je pose la question de qui fabrique la clandestinité, c'est que j'ai comme principe de lecture que ce ne sont pas les clandestins qui fabriquent la clandestinité. Eux, ils seraient prêts à vivre sans être clandestins. Et voilà, c'est bien parce qu'il y a un État qui décide de fermer les frontières, de ne donner des papiers d'identité qu'à certaines personnes. Et quand je dis à qui profite le crime, c'est que depuis longtemps, je suis dans les organisations proches du soutien aux arrivants. Je constate que les clandestins trouvent facilement du travail parce que des entreprises ont tout intérêt à les embaucher de façon très précaire et de manière à les salarier hors du cadre du code du travail. Voilà. Et donc, selon moi, ce ne sont pas les clandestins qui fabriquent la clandestinité.
Vous écoutez actuellement l'interview de l'écrivaine Florence Sébron. Elle nous parle de son ouvrage « Marianne à la rue ». Alors, durant les nuits que vous avez passées à l'école, Florence, vous avez écrit un poème qui est devenu une chanson avec des très beaux textes qui s'appelle « Papier » au pluriel, « Papier d'Arménie ». Est-ce que vous pouvez parler de la genèse de ce poème et aussi lire un extrait ?
Papier d'Arménie, bah déjà voilà, c'est la famille de notre école qui est arménienne. Papier, bah c'est les papiers d'identité. Le droit pour des gens de vivre en France hors de la clandestinité, c'est le fait d'avoir des papiers. Le mot papier d'Arménie, c'est devenu tout de suite très fort en moi. Et puis, le papier d'Arménie, c'est l'encens. C'est ce qui permet d'embaumer une maison. Mais c'est ce qui part en fumée aussi. Donc, pour moi, il y avait vraiment tout un univers, tout un imaginaire, tout un univers de pensée, d'écriture autour de cette expression « papier d'Arménie » qui, m'a fait écrire un poème assez rapidement, qui était intense en moi puisque j'étais en train de vivre une expérience très forte. Et puis, j'écris de la poésie depuis très très longtemps. Jusqu'à il y a 10 ans, je ne savais pas très bien que j'écrivais de la poésie. C'est-à-dire que j'écrivais de la poésie, comme beaucoup d'êtres humains. Mais on n'en a pas conscience. Bon, voilà, on met ça dans ses cahiers, on ne sait pas. Et puis, il y a une dizaine d'années, la poésie est devenue ma forme d'écriture, on va dire quasi quotidienne. Et quand cette activité de solidarité est arrivée, c'était nécessaire, c'est comme une respiration. On écrit comme on respire quand on écrit quotidiennement. Donc on respire pas forcément bien, mais on respire et donc on écrit. Et voilà, donc ça c'est le contenu papier d'Arménie. Et puis j'ai la chance, et je pense que ça a stimulé aussi mon écriture poétique, de faire partie d'un groupe qui prend une partie de ma poésie pour en faire des chansons. Et donc, effectivement, quand ce groupe s'est mis à composer, donc il y a un compositeur qui compose sur mes poèmes, et puis après un groupe qui arrange ensemble cette composition. Ça a largement stimulé mon écriture. Et donc, dans ce moment de ma vie, Papier d'Arménie est venu tout seul. Et comme nous étions dans un cadre d'action militante, je ne sais plus si c'est moi qui ai demandé à mon groupe ou si c'est le groupe qui a proposé ça, mais on s'est dit que s'il y avait des initiatives publiques, c'était tout à fait justifié de soutenir cette activité de solidarité par notre musique. Mmh. Donc voilà, c'est devenu une chanson et qui a été, je pense, je peux le dire, un hymne pour cette action, puisque à l'occasion de 3 manifestations, non seulement nous avons chanté, mais les gens qui étaient dans la rue ont chanté aussi cette chanson.
Nicolas et Mardavé, un soir s'est délogé, attire nos attentions et nos humanités. Ils jouaient dans la cour sans se faire remarquer. Ils jouaient dans la cour, parlaient déjà français.
Cette chanson, vous l'avez fait écouter également à vos élèves en classe, la marche qui a eu lieu à Creil.
Voilà, ça c'est une des façons de concevoir mon métier. Je pense que la vie des enfants, ça doit être une vie dans la vie de la société. Par exemple, au programme scolaire, il y a éducation civique et morale. Il y a 36 façons de le faire, voire 36 000 façons de le faire. Je pense que chaque enseignant s'approprie cet élément du programme comme il le peut. Alors, on a des façons très froides et sèches de le faire, en partant de textes et en arrivant à des cadres très moraux. Et puis, il y a la vraie vie. Et là, les enfants de mon école étaient témoins d'une situation réelle, à savoir que dans le pays des droits de l'homme, qui a le droit de se nommer ainsi, hein, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées démocratiques dans ce pays, au prix de son histoire et de combats et de consensus, voilà. Mais il reste de nombreuses injustices qui sont cultivées en tant que telles. Et donc, je pense que nos élèves doivent connaître ces contradictions.
Nicolas et Mardavé habitaient le quartier où l'on roule l'anglais d'un bel accent indien. Le turc et le pachtou, les verbes chuchotés, un quartier terre d'accueil pourtant si mal mené.
Cet ouvrage, il est sorti il y a un an. Vous êtes en train de chercher des maisons d'édition pour que le public puisse l'apprécier et le découvrir.
Maintenant que je sais que j'aime écrire, je sais me donner les conditions de vie pour écrire, c'est-à-dire du temps, un cadre, des formes, bien maintenant il faut que j'apprenne à être édité. Et ça, c'est un nouvel apprentissage dans ma vie. C'est pas quelque chose d'évident. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi. Donc, je vais découvrir. Je commence à envoyer ce livre à des éditeurs. Il ne faut pas que j'en parle trop de mon rapport à l'édition parce que je suis toute jeune dans cette partie de ma vie.
Florence, c'est bon. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir parlé avec détail de votre premier roman, Marianne à la rue. Et j'invite tous les auditeurs à découvrir ce roman dès que possible.
Moi aussi, je vous y invite. Il y a au moins 2 librairies dans l'Oise avec lesquelles je suis en contact. Donc il y a Graines de mots à Chevrières et Entre les lignes à Chantilly. D'ailleurs, nous avons perdu Entre les lignes à Creil. Ça fait partie des petits drames du quotidien. Et puis, je vous invite aussi à écouter Papier d'Arménie sur YouTube. Et puis à la chanter parce qu'on l'a mis en format karaoké pour que vous puissiez l'apprendre. Et par ailleurs, j'ai écrit d'autres ouvrages, mais on en reparlera plus tard.
Les papiers d'Arménie ou les papiers d'ici, parfums indésirables s'envolent en fumée. Les papiers d'Arménie ou les papiers d'ici, en sourires allumés, nourrissent tellement. Solidarité.
Voilà, c'était Yann. J'étais donc au domicile de Florence Sébron pour parler de son premier ouvrage, Marianne à la rue.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.